comment savoir si je suis appelé à être missionnaire? Alors, pourquoi ce titre? Eh bien, parce que, comme vous le savez, ça fait 2 mois qu'on est aux États-Unis, on vient de rentrer il y a quelques jours, et on a rendu visite à des églises qui nous soutiennent, puisque nous sommes officiellement des missionnaires. Et comme vous le savez, tous les dimanches, j'essaie de vous envoyer quelques images, quelques petits rapports pour que vous nous suiviez pendant ce voyage. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que j'ai prêché pas mal de fois aux États-Unis et chaque fois que je retourne là-bas, je travaille un message que je pense peut être utile. Et donc le message que j'ai prêché ce voyage dans les églises que nous avons visitées est celui-ci. Comment savoir si je suis appelé à être missionnaire? Et donc il m'a semblé utile que vous sachiez ce que je fais quand je suis là-bas. Donc en fait, j'ai traduit mon message, d'accord, et je vous l'apporte ce matin. Comme ça, vous pouvez vous mettre dans le contexte de quelqu'un là-bas qui se dit « Tiens, est-ce que peut-être je devrais moi aussi être missionnaire ?» Et je vous pose même la question à vous, peut-être vous vous êtes déjà posé la question « Est-ce que je suis appelé à être missionnaire ou pasteur ou est-ce que je suis appelé à un ministère, une vocation pastorale ou de ministère ?» Donc voilà vraiment le but de ce message. Et c'est intéressant, j'ai enseigné, donné ce message quelques fois et j'ai eu plusieurs réactions assez intéressantes. Quelques personnes m'ont parlé ou m'ont envoyé des emails et voici les 2 réactions globales que j'ai reçues. Première est celle-ci, waouh, écoutez, merci John, ce message confirme mon appel à une vocation missionnaire. Donc certains se sont dit, ça a beaucoup aidé à confirmer ce qu'ils ressentaient déjà dans leur cœur. Une autre personne, enfin plusieurs personnes m'ont appelé pour me dire « John, écoute, merci pour ce message, mais non, je suis confirmé, c'est clair et net, je ne suis pas appelé à être missionnaire. » Et j'ai trouvé très intéressant parce que ce message a vraiment un double but, de confirmer ou de ne pas confirmer, ou de confirmer en négatif qu'on n'est pas appelé. Mais ce qu'on va voir, c'est que si on n'est pas appelé en tant que missionnaire ou pasteur plein temps, ça ne veut pas dire que on n'est pas utile au Seigneur. Attention, ça on va le voir aussi ce matin. Donc, j'espère que ce message aura le même effet pour chacun de nous ce matin, confirmer d'une manière ou une autre cet appel, ce qu'on peut appeler parfois mystérieux, du Seigneur. Alors c'est vrai que la question de l'appel de Dieu concernant une vocation missionnaire ou pastorale est importante. Nous, on sort d'une conférence missionnaire où on était environ 400 personnes à Los Angeles, et là, on rencontrait des missionnaires, enfin c'est des gens qu'on connaît depuis des années, qui sont missionnaires. Je vous donne simplement une petite liste. Je connais personnellement des missionnaires en Afrique du Sud, dans l'Ouganda, en Allemagne, en Italie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, en Chine, en Albanie, en Croatie, en Espagne, au Mexique, à Haïti, en Honduras, en France et en Suisse. Il y a vraiment des missionnaires dans presque tous les pays du monde. Il y a une armée autour du monde qui est là pour propager l'évangile jusqu'au retour du Seigneur. Et donc, cette question de la vocation pastorale est importante et c'est une question qui est posée à la plupart des missionnaires à un moment donné dans leur vie. Les gens regardent un missionnaire, ils voient ce choix, cette décision d'être parti quelque part et ils se posent la question parfois, tiens, et moi? Et moi? Voyez-vous, les missionnaires rentrent, et ça c'est tout à fait ce qu'on a fait, ils rentrent en congé missionnaire dans leur pays d'origine et on leur donne souvent quelques minutes, parfois plus longtemps, pour donner un rapport de leur travail. Alors d'habitude, ils donnent des rapports enthousiasmants. Ça c'est normal, ils vont pas raconter tous les problèmes. D'habitude, c'est des rapports enthousiasmants de ce que Dieu fait dans leur partie du monde. Ils racontent des récits étonnants de gens qui rencontrent Christ personnellement, qui à un moment donné ont rencontré Jésus-Christ et leur vie a été transformée par la personne de Jésus-Christ mort et ressuscité pour leurs péchés. En plus, ils montrent des présentations PowerPoint. Même des vidéos. Moi, j'ai des vidéos de concerts. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai en train de dire. Et bon, on a des très belles vidéos de nos concerts. Je les montre. Je montre tout ce que j'ai. J'ai toute une batterie de choses que je montre. Et donc, alors, les gens regardent ça et se disent, tiens, super intéressant. Est-ce que moi, peut-être, je serais aussi appelé à être missionnaire et pourquoi pas à Genève? Ben oui, pourquoi pas. Et donc, cette question est importante. D'autres choses, et peut-être vous avez fait pareil, Des gens aiment des biographies des missionnaires. Moi, j'ai beaucoup lu des biographies de missionnaires, et on lit ces biographies. Alors, c'est une vie entière résumée en 120, 150 ou 200 pages. Et alors, on lit ces biographies, on se dit « Waouh, génial ! Est-ce que moi aussi, peut-être, je suis appelé ?» Il y a aussi ces fameux récits bibliques. Des récits bibliques d'appels plutôt époustouflants. Je vous en donne un ou deux, juste pour vous montrer de quoi je parle. Par exemple, dans Jonas... Vous connaissez, on lit les premiers deux versets. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi. » Donc voilà, on lit ce récit, on lit le récit de Jérémie ou de Paul qui s'est converti dans Actes 9, ou même des 12 disciples qui ont été appelés directement par Jésus, et on se dit « Tiens, est-ce que ça pourrait se passer pour moi aussi comme cela ?» Alors, l'appel de Dieu est une chose assez intéressante. Voici quelques idées supposées qui ne sont pas très bonnes sur l'appel de Dieu. Par exemple, le principe de la banane. Ou la c'est une pelure de banane, on dit bien la pelure de banane, c'est juste la pelure. Ouais, la peau de banane. Alors, vous descendez la rue à Genève, et tout d'un coup, tac, il y a une peau de banane, vous glissez dessus, vous tombez avec le doigt ouvert comme ça, et comme par hasard, juste derrière vous, il y a un grand plan du monde, et votre doigt tombe sur l'Inde. Et vous dites, ah ben voilà, je suis appelé à aller en Inde. D'accord. Donc ça, c'est le principe de la peau de banane. C'est pas comme ça que ça marche, l'appel de Dieu. Il y a le principe du sentiment positif. Ah, j'ai un sentiment fort, je veux partir. Alors, c'est un des éléments, on y verra, mais celui-là tout seul, il est un peu dangereux, juste de suivre son sentiment tout seul. Il y a le principe du besoin. Ah, il y a des besoins énormes dans tel ou tel pays, donc je devrais aller. Alors, question, est-ce qu'un besoin en lui seul constitue un appel ? Non, il y a des besoins partout. Tant qu'un pays n'est pas 100% évangélisé, bah, il y aura des besoins dans ce pays. Donc le besoin en lui-même ne constitue pas un appel. Il y a le principe des versets bibliques ou du verset biblique. Alors je vais vous donner un exemple que même moi j'ai utilisé, je pense à tort, d'accord ? Mais heureusement que ce n'était pas que ce principe-là que j'ai utilisé. Mais dans Ésaïe 41, c'était à l'époque, quand j'étais à l'université, j'étais tout nouveau croyant et je me demandais, tiens, est-ce que Dieu est en train de m'appeler ? Je ressentais cette question en moi. Alors un jour, je lisais, je suis tombé dans Ésaïe 41. 41 ? Ouais, 41 à partir du verset 8. Et j'ai lu ces versets un jour et je me suis dit, c'est moi, c'est pour moi. Alors vous allez me dire si vraiment ces versets s'appliquent à moi. Mais c'est comme ça que je l'ai lu, d'accord ? Verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. » Je me suis dit, ben voilà, c'est pour moi. J'étais aux États-Unis, je lisais ce verset, je me disais, je viens d'un pays lointain, je suis né à Paris, j'ai grandi à Genève, et je me sentais être choisi dans le sens que j'avais un désir de le servir plein temps ici. Alors j'ai appliqué ces versets à moi pour me dire, ah, ben voilà, c'est pour moi. Alors contextuellement, ça n'a rien à voir avec John Glass, rien. J'ai pris ces versets complètement hors contexte et je les ai appliqués à moi. Et ça, c'est très facile à faire et très dangereux. D'accord ? Très dangereux. Heureusement que l'appel, mon appel, n'était pas basé uniquement que sur ces versets. D'accord ? Donc ça, c'est ce que j'appelle le principe des versets bibliques. Il y a aussi le principe du voyage. Ah, si je deviens missionnaire, je vais beaucoup voyager. D'accord ? Et ça, ça m'intéresse. Alors, c'est vrai, si vous devenez missionnaire, vous allez certainement beaucoup voyager, mais ce n'est pas le mobile principal. Si vous devenez missionnaire pour voyager, je vous garantis que vous serez de retour très rapidement dans votre pays, d'accord ? Parce que des fois, ça chauffe sur le champ missionnaire, il faut vraiment être appelé. Donc, ce ne sont pas vraiment des bonnes méthodes. Alors, ce matin, j'aimerais aborder des principes pour nous aider à discerner l'appel de Dieu, la vocation de Dieu dans nos vies, d'accord ? Et donc, ce message un peu inhabituellement est un message thématique, d'accord ? thématique, mais vous allez voir que je pense que ça colle et je pense que ces principes sont justes. Donc je divise ce message en deux grandes parties. Premièrement, les quatre principes généraux sur l'appel de Dieu, et ensuite 10 principes spécifiques. D'accord ? Et tout ça réuni va nous aider à comprendre l'appel de Dieu. C'est parti ? C'est parti. Alors, quatre principes généraux, d'accord ? Ça, c'est très important, ça pose la base. 1. Tout le monde est appelé au salut. Tout le monde est appelé au salut. Par exemple, 2 Pierre 3:9 dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tout le monde arrive à la repentance, reconnaisse son péché, soit confronté par l'amour de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, et que cette personne cède son cœur à Christ et que Christ le sauve, lui pardonne son péché et lui accorde la vie éternelle. Donc ça, c'est un principe général. Dieu veut que tout le monde soit au salut, soit sauvé. Tout le monde est appelé au salut. Deuxième principe général, tout le monde est appelé à servir. Tout le monde ou tout chrétien, parce que là on parle de chrétien bien sûr, est appelé à servir. Et là on a un verset très intéressant dans Romains 12 et le verset 11 qui dit ceci, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Servez le Seigneur. C'est intéressant dans Actes 13, c'est pendant qu'ils servaient le Seigneur, nous dit le verset 1 et 2, que Paul et Barnabas ont été appelés à être missionnaires. C'est pendant qu'ils servaient le Seigneur. Donc, tout chrétien est appelé à être, bien sûr, sauvé, et est appelé à être servi. Et ça, c'est très, très, très important, mes amis, parce que dans... Allons à Actes 13, juste 2 secondes. Parce que lorsque Paul et Barnabas, et Paul était le plus grand missionnaire de tous les temps, il est dit, au verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avaient été élevés avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors c'est très important de réaliser que dans cette église où nous avons la liste des responsables, il n'y en a que 2 qui sont appelés à partir. Les autres sont restés dans l'église. Et ceux qui sont restés ont servi le Seigneur, parce qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, comme ceux qui sont partis. Donc le fait qu'on n'ait pas appelé à une vocation pastorale plein temps ne veut pas dire qu'on ne sert pas, qu'on parte ou qu'on reste. Tout le monde sert. Tout le monde sert. Et bien sûr, ceux qui partent sont soutenus financièrement en partie, enfin financièrement, mais aussi en prière et moralement et tout le reste, par ceux qui restent. Donc, c'est très important de savoir que tout le monde est appelé à servir. Troisième principe général, certains sont appelés à une vocation missionnaire plein temps, mais pas tous. Mais pas tous. Certains, mais pas tous. Comment est-ce que nous le savons? Je vous donne quelques exemples. Par exemple, dans 1 Corinthiens 9, nous voyons que certains sont appelés à vivre de l'Évangile. J'explique. 1 Corinthiens 9, 11, il est dit ceci. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Je continue verset 11. Excusez-moi, le verset 14, et il dit. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre l'Évangile, de vivre de l'Évangile. Et pourquoi, verset 16 nous le dit, Paul y dit, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » C'est intéressant que Paul est en train de dire ici que certains sont appelés à annoncer l'Évangile. C'est une contrainte, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas ne pas faire. Paul, il dit que s'il n'annonçait pas l'Évangile, ce serait un malheur pour lui. Et en plus, il dit dans ces versets, que quelqu'un qui annonce l'évangile plein temps a le droit d'être rémunéré pour ce travail plein temps. Donc ça, c'est une sorte de vocation missionnaire plein temps, dans ce sens-là. Donc, certains sont appelés à vivre de l'évangile, mais pas tous. Ça ne veut pas dire qu'ils servent moins, attention, hein, parce que tout le monde est appelé à servir. Deux, c'est le deuxième sous-point, sous-point 3, certains sont doués pour le travail du ministère, mais pas d'autres. Par exemple, dans Éphésiens 4, et le verset 11, il est dit ceci, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. » Donc Dieu a choisi certains à être ici apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs ou docteurs, mais pas tous, certains. Certains. Troisième sous-point, certains sont appelés à enseigner, mais pas tous. Pas tous. Jacques 3.1 dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser n'importe qui enseigner n'importe quoi. La Bible dit que si on enseigne l'erreur, ben on sera jugé. Donc il faut faire attention. Donc c'est quelque chose d'important. Et on ne doit pas laisser n'importe qui faire ça. Donc, un appel missionnaire, vocationnel, pastoral ou missionnaire va impliquer de l'enseignement. Donc, il faut bien être sûr que la personne tient la route. Aussi, on peut dire que certains ont le désir pour le ministère, mais pas d'autres. Alors là, on parle des anciens, ici, dans 1 Timothée 3. C'est le quatrième sous-point, sous-point 3. D'accord ? Il est dit dans 1 Timothée 3.1, et on y reviendra dans quelques instants, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc, juste pour devenir ancien dans une église, il doit déjà avoir le désir. Il ne faut jamais forcer quelqu'un à devenir ancien ou responsable dans l'église. Il doit y avoir un désir, alors bien sûr un humble désir, pas un désir de vouloir se montrer, mais un désir de service, mais il doit y avoir quand même ce désir. Donc certains ont un désir pour le ministère, d'autres pas du tout. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. 5. Certains sont qualifiés pour le ministère, pas d'autres. D'accord ? Parce qu'il dit ensuite, vis-à-vis des anciens, au verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Et ensuite, il donne une liste de qualifications. Pour être ancien, il faut être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, etc. Donc, c'est des critères importants, une sorte de code, et on peut dire, ben voilà, si tu es ancien, ben ta vie doit correspondre à cela. Donc, certains sont qualifiés, d'autres pas. Alors, ça ne veut pas dire que si on n'est pas qualifié à être ancien, qu'on n'est pas qualifié à servir dans l'Église. Non, c'est simplement des qualifications pour être ancien. Mais c'est des qualifications qui devraient être vraies de tout le monde, dont certains deviennent anciens. Quatrième grand point, d'accord, ce serait que l'appel de Dieu semble tomber dans deux catégories générales, d'accord. Il y a ce que j'appelle l'appel dramatique. Jonas, c'est un appel dramatique, d'accord. On pourrait aussi dire, par exemple, que Jérémie, il a eu un appel dramatique aussi. D'accord, alors je cherche Jérémie. Jérémie 1, il dit, parole de Jérémie, fils de Hilkija. Et ensuite, il lui dit, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu parle, avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je me dis, c'est quand même incroyable d'imaginer que Dieu avait déjà choisi Jérémie en tant que prophète avant même qu'il soit né. Ça, c'est une réflexion intéressante par rapport à tout le domaine de l'avortement déjà. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est vraiment intéressant de voir que son appel dramatique, pareil pour Jean-Baptiste, pareil pour tant d'autres dans la Bible. Donc ça, c'est l'appel dramatique où Dieu parle. Alors, ce type d'appel ne semble plus être la norme aujourd'hui. Le canon des Écritures est fermé, donc les principes sont canoniques. Et ça, je vais vous les montrer dans quelques instants. D'accord? Donc, il y a l'appel dramatique de, deuxièmement, ce que j'appelle, moi, l'appel normatif. Normatif. C'est quoi l'appel normatif? Ben, dans Acte 16, nous avons l'exemple de la manière que Timothée a été appelé à être missionnaire. Dans Acte 16, et là on est au verset 1, il est dit, « Paul se rendit à Derbe, Acte 16, 1, et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle d'un père grec. Les frères de Lystre et de l'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. » Alors, cet appel, ce que j'appelle normatif, c'est un jeune qui est dans l'église, qui a une bonne réputation. Et tout le monde dit, ah ouais, Paul, tu cherches quelqu'un? Timothée, ça c'est ton gars. C'est clair que Dieu travaille dans sa vie, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est clair qu'il y a un appel. Alors Paul, écoute, il se fie à la réputation de cet homme et il le prend. Et pendant le reste de sa vie, c'est un fidèle serviteur. Ça, c'est vraiment l'appel normatif. Les anciens, dans une église, pareil, pour être ancien, bien, c'est la réputation de la personne, on la connaît. Et tout d'un coup, il y a ce désir qui surgit dans cette personne pour servir le Seigneur en tant qu'ancien dans une église. Donc voici les quatre principes généraux, d'accord, pour l'appel de Dieu. Premièrement, tout le monde est appelé au salut. Deux, tout le monde est appelé à servir. Trois, certains sont appelés à une vocation plein temps, pas tous. Et quatre, l'appel de Dieu se situe en deux catégories. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est l'appel normatif. Normatif. Donc, comment discerner aujourd'hui si nous sommes appelés à être missionnaires ou pasteurs ou à être dans une vocation plein temps pour le Seigneur? Eh bien, j'aimerais vous apporter 10 principes simples, des points faciles à retenir, parce qu'ils commencent tous avec la même lettre. D'accord? Donc, 10 principes spécifiques pour l'appel de Dieu. C'est parti. Numéro 1, et c'est en forme de question. Et je vais utiliser la forme « tu », donc je te parle à toi, d'accord? Numéro 1, as-tu la conviction de cet appel? Alors je me refie à 1 Timothée 3:1. Là on parle d'anciens, mais il dit ceci, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Alors j'utilise ce verset parce que dans 1 Timothée 5:17, il y a une précision par rapport aux anciens. Certains sont vraiment, ils ont une sorte de vocation. Regardez, il est dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc le contexte, parce qu'il dit au verset 18 que l'Écriture dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire », il parle d'un honneur matériel, salarial. Et donc certains anciens sont mis à part presque pour un ministère plein temps d'enseignement ou de direction, et même rémunérés pour ce travail. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il doit déjà aspirer à cela. Alors ce verset est intéressant parce qu'il dit « Celui qui aspire à être ancien désire une œuvre excellente ». Le mot « aspirer » dans le Nouveau Testament parle de quelqu'un qui se penche en avant pour saisir quelque chose. C'est comme un coureur qui franchit la ligne d'arrivée, il se penche pour être le premier. Et dans 1 Timothée 6:10, le même mot parlant de l'amour, donc c'est le même mot en grec, mais avec un mot français différent, parle de l'amour de l'argent. Donc c'est ce sentiment très fort d'amour, d'aimer, de vouloir quelque chose. Dans Hébreux 11:16, parle d'un pays meilleur, de vouloir ce pays meilleur. Donc l'amour de l'argent, hein, parce qu'on a tous été touchés par ça à un moment donné, hein, cet amour de l'argent, ce sentiment tellement fort, qui peut être là, qui est dangereux, bah, en fait c'est le même mot pour ici. Utilisé pour devenir ancien. Il faut vouloir devenir ancien. Alors bien sûr, pas dans le sens du péché, d'accord? Donc il désire une œuvre excellente. Et là, de nouveau, ce mot, c'est le mot convoité. Utilisé d'une femme donc de convoiter une femme dans Matthieu 5, 28, la nourriture dans Luc 15, 16. Par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez déjà eu super, super, super faim? Et là, vous pouvez plus rien faire, il faut que je mange, je sais pas, une banane ou quelque chose pour me donner de l'énergie. Mais vous avez tellement faim, il faut absolument manger. Ce sentiment, c'est ce sentiment-là de désirer fortement cette vocation plein temps. D'accord ? C'est une impulsion pour le ministère qui est presque inexplicable, mais tellement, tellement forte. Spurgeon, c'est un grand prédicateur, a dit ceci. Notez que le désir que je décris doit être complètement désintéressé. Si un homme peut détecter après le plus sérieux examen de conscience un autre, écoutez bien, s'il peut détecter un autre motif que la gloire de Dieu et le bien-être des âmes dans sa recherche du ministère, il est mieux qu'il s'en retire tout de suite, car le Seigneur déteste les acheteurs et les vendeurs dans son temple. Les mercenaires dans son travail, même dans les plus petits degrés, seront comme la mouche dans le pot de pommade et gâcheront le tout. Ah, moi j'aime bien, hein, c'est clair et net, lui dit, si ton mobile est autre que la gloire de Dieu et l'évangile, pars en courant, ne rentre pas dans le ministère. Donc, le mobile doit être une chose, l'évangile, vous dites, ouais, mais t'as voir, Jonas, lui, il n'avait pas trop envie d'aller à Ninive. Ah, c'est vrai, la première fois. Mais la deuxième fois, tout a changé. Quand tu es avalé par un grand poisson pendant 3 jours et ensuite tu es vomi sur la plage, tout d'un coup, tu as envie d'y aller, d'accord? Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. À un moment donné, il avait vraiment envie d'aller à Ninive et faire le travail auquel il a été appelé. Donc, cette vocation, ce premier point, doit être tellement fort, ce désir doit être tellement fort que vous ne pouvez pas imaginer faire autre chose. Blick, un autre commentateur, a dit ceci. Si vous êtes heureux à l'extérieur du ministère, restez en dehors. Mais si l'appel de Dieu vient, ne résistez pas. Alors, je vais vous donner quelques exemples de moi, parce que j'ai l'impression avoir été appelé à ce ministère dans lequel je suis. Mais c'est très intéressant parce que, comme vous le savez, j'étais steward pour la compagnie Pan Am. C'est là où j'ai rencontré mon épouse May, qui était hôtesse de l'air. Dans l'année 1980, et la compagnie commençait à, comment dire, à plonger, probablement à cause de moi, j'en sais rien, et donc j'étais licencié avec plein d'autres. J'étais junior à Mec, donc j'étais licencié en premier, et là maintenant j'étais licencié, j'étais à New York, et je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais? Ah, super, l'occasion d'aller dans le ministère. Et je me suis dit, tant, est-ce que mon mobile est bon? Je me suis dit, ce que je vais faire, je vais me faire embaucher par une bonne société et ensuite quitter. Et là, ça va me prouver que vraiment, je suis appelé, pour moi. Donc, je me suis fait embaucher par NBC TV, c'est l'équivalent de télévision suisse romande ou France 1 ou 2. Et moi, j'aimais beaucoup aller voir le journal du soir, hein, avec tous les... Comment on appelle la personne qui donne le journal, le commentateur? Comment on appelle? Comment il s'appelle ici? C'est pas Marius, en Suisse? Darius, voilà. Donc moi j'aimais bien aller voir les infos et je regardais le Darius américain tous les soirs donner son truc et je trouvais ça intéressant. Et un jour le directeur des infos du soir à NBC TV est venu me voir, il m'a serré la main, il m'a dit ceci, je vous le dis c'est vraiment vrai, d'accord? C'est pas que les autres choses sont pas vraies, mais là c'est vraiment vrai. Il m'a dit, John, si vous restez à NBC assez longtemps, un jour vous serez dans ce siège. Il m'a dit ça comme ça. Le lendemain, j'ai démissionné. Parce que je me suis dit, c'est le pire truc que je voudrais faire. C'est absolument pas ça. Moi, je voulais prêcher l'évangile. Et pour moi, ça m'a confirmé. Alors, je ne dis pas que ça devrait être comme ça pour tout le monde. Pour moi, c'est ce que je voulais. Et là, ça m'a confirmé que je voulais absolument aller dans le ministère. Donc, je suis allé à Los Angeles faire mes études de théologie. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Et donc, ça m'a, moi, ce point, et je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce qui s'est passé en moi. C'était un désir. Je ne pouvais pas ne pas faire autre chose. Je ne pouvais rien faire d'autre. Et mon désir, c'était assez étonnant. À l'époque, c'était de revenir à Genève. Je voulais revenir à Genève. Nulle part autre. Par la grâce de Dieu, j'y suis. C'est quand même incroyable, je me dis. Incroyable. Donc ça, c'est le premier point. D'accord? Le premier point. As-tu la conviction? Deux. As-tu le caractère? As-tu le caractère? Là, je parle d'intégrité, irréprochabilité, calibre. Alors j'ai déjà regardé ça dans Timothée 3 parlant des anciens, ils doivent être qualifiés moralement. Et c'est intéressant, si vous prenez toutes les qualifications pour être ancien, il n'y a qu'une qualification qui parle de sa capacité de faire quelque chose, c'est le fait d'être apte à l'enseignement. Pour être un ancien, le seul truc qu'il faut absolument pouvoir faire, c'est d'enseigner. Tout le reste, ce sont des qualifications morales et spirituelles. Donc la question est toute simple. Est-ce que, moralement et spirituellement, tu es qualifié pour ce ministère à vocation plein temps? Dans 1 Pierre 1,15, il est dit « Soyez saints comme Dieu est saint ». Dans Exode 29, il y a un texte assez intéressant. C'était le texte de la consécration des sacrificateurs. Et un des rites qu'ils avaient, c'est avant d'être consacré en tant que sacrificateur, ils sacrifiaient un animal, ils prenaient du sang et ils mettaient du sang sur l'oreille, sur le pouce et sur l'orteil du sacrificateur. Vous dites, mais ça c'est un drôle de rite. Alors oui et non. Ce que ce rite était en train d'annoncer, c'est que dorénavant, ce sacrificateur allait écouter, faire et aller ce que Dieu voulait qu'il écoute, qu'il fasse et là qu'il aille. La question c'est, est-ce que le caractère est là? Moi je me rappelle quand j'étais pasteur à Paris, j'étais dans l'église peut-être 1 mois, 2 mois, j'étais tout nouveau pasteur. Il y a un jeune qui vient dans l'église, qui s'appelle Luc, je me rappelle tellement bien, parce que c'était un homme tellement génial, il était éboueur à Paris. Il vient dans mon bureau, il dit « John, est-ce que je peux te parler ?» Je dis « Ouais, bien sûr, rentre. » Il s'assied et il me dit « Écoute, John, est-ce que je peux te poser une question ?» Je dis « Ouais, pose-moi une question. » Il me dit « Écoute, voilà. » Si tu vois dans ma vie quelque chose qui ne va pas bien, que ce soit en parole ou en action, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me le dire ? Je ne sais pas, vous êtes pasteur et quelqu'un vous dit ça, vous réagissez comment ? C'est génial. Tu as des gens comme ça dans l'église, c'est top. Je dis, mais bien sûr, Luc, avec grand plaisir. Si je vois un truc dans ta vie, bah avec gentillesse et douceur, je te le dirai. Il a dit, ah écoute, c'est super sympa. Il a dit, est-ce que je peux te poser une deuxième question ? Je dis, ouais, bien sûr. Il dit, est-ce que ça pourrait être réciproque ? J'y réfléchis, je dis, ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et alors, qu'est-ce que je pourrais répondre ? Non ? Non, bien sûr, j'ai répondu oui. Et là, pendant 10 ans, tous les mois, il venait me voir, on prenait un rendez-vous et on se disait les choses en face. C'était génial. Alors, quand je suis arrivé à la Servette et encore ici, première chose que j'ai fait avec les anciens, j'aurais dit, écoutez, messieurs, est-ce que je pourrais vous poser une question ? Ouais, il n'y a pas de problème. J'aurais dit, écoutez, si vous voyez un truc dans ma vie, je ne sais pas, une parole ou quelque chose que je n'ai pas fait bien, est-ce que vous pouvez me le dire ? Alors les anciens, ils réagissent. Ah ouais, c'est super, quelle belle attitude, c'est génial. J'aurais dit, est-ce que je peux vous poser une deuxième question? Ouais, pas de problème. Est-ce que ça pourrait être réciproque? Et ouais. Et c'est vrai, avec les anciens, à l'EIG, c'est exactement ce qu'on fait. On se parle ouvertement, directement. S'il y a un truc, on règle. S'ils voient un truc dans ma vie qui ne va pas, ils m'en parlent et réciproquement. Ça, c'est la clé, mes amis. Ça, c'est le caractère. Nous devons avoir ce type de caractère. Et j'espère qu'on le fait entre nous aussi, pour que le Seigneur soit vraiment glorifié dans nos vies. Trois. As-tu la connaissance ? On y pense. Le christianisme, c'est donc un appel au ministère pour propager l'évangile. Eh bien, le ministère est basé sur quoi ? Le ministère est basé sur la Bible. Voici l'information de base que nous avons sur Jésus-Christ et sur le christianisme, sur le salut. Donc, si une personne est appelée au ministère, cette personne doit connaître sa Bible. Ce sera son principal outil. Et il n'y a pas de raccourci vers l'apprentissage de la parole. Il y a beaucoup de versets par rapport à ça. Par exemple, dans Colossiens 3,16, il est dit quoi ? Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Dans Hébreux 4,12, tellement de versets sur ce point, dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà, notre outil principal, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut la connaître. Alors là, je ne parle pas, il y a quand même des... comment dire, des, pas des exceptions, mais il y a par exemple des aujourd'hui très populaires des voyages missionnaires court terme, où des gens vont quelque part une semaine, deux semaines, pour un petit peu avoir un aperçu de la vie missionnaire. Alors bien sûr, c'est pour des gens qui sont zélés pour le Seigneur, ils connaissent leur Bible, mais là, ils y vont vraiment pour un petit peu voir ce qui se passe. Il y a aussi certains ministères qui sont moins à vocation d'enseigner la parole, plutôt utilitaire. Par exemple, dans la mission team dans laquelle nous étions pendant les années, nous avions un trésorier plein temps. Il nous fallait un trésorier, parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires qu'il fallait gérer. Alors bien sûr, ce sont des hommes qui aiment la parole de Dieu, mais leur vocation est un petit peu différente. Quoi qu'il en soit, il faut quand même connaître la parole de Dieu. Maintenant, si on est appelé à être pasteur, ou fondateur d'église, ou enseignant dans une école biblique ou autre, là, il faut vraiment connaître la parole de Dieu. Moi, je me rappelle, vous vous rappelez que nous soutenons depuis un an une famille dans notre église, missionnaires qui sont partis au Togo. C'est donc Timothée et Myriam Deglon. Et c'est intéressant, leur travail, c'est un travail, lui, il est ingénieur, et elle, elle est médecin. Et ils sont allés au Togo, dans cette ville de Mongo, où ils construisent un hôpital. Elle, son rôle va être dans l'hôpital. Lui, son rôle va être pour aider dans l'agriculture. Mais ils ont les deux fait l'IBG, l'Institut biblique de Genève, pour apprendre à maîtriser la parole de Dieu avant de partir avec un rôle très spécifique. Mais ils ont fait le nécessaire pour connaître la parole de Dieu. Moi, je me rappelle quand je me formais à mon ministère, je voulais partir tellement rapidement. Moi, je voulais venir ici, je voulais venir. Et un jour, mon pasteur, il a vu que j'étais pressé. Il m'a pris dans son bureau, il m'a assis, il m'a dit, « John, je vais te dire quelque chose, ne l'oublie jamais. » J'ai dit, « OK. » Il m'a dit ceci, « John, si j'avais 5 ans à vivre, je me formerais pour 4 ans et je partirais pour 1 an. » Et là, j'étais soufflé. Parce que moi, j'aurais dit l'opposé. Moi, j'aurais dit, si j'avais 5 ans, j'étais tellement pressé que je me formerais pendant 1 an, je partirais pendant 4 ans, et après 2 ans, certainement retour à la maison. Formation. Est-ce qu'on est prêt à faire le travail d'être formé? Très important. 4. As-tu la compétence, la capacité, les dons? Par exemple, dans Éphésiens 4, 11 et 12, il est dit ceci. « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Voilà, certains hommes sont doués et donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Ils ont la compétence pour faire ce travail. Écoutez encore ce que Spurgeon a dit, très intéressant. Il dit que la simple capacité à édifier ou l'aptitude à enseigner ne suffisent pas pour le ministère. Il faut d'autres capacités pour mener à bien le ministère. Un jugement sain, une solide expérience doit vous instruire. Des manières douces et une affection aimante doivent vous influencer. La fermeté et le courage doivent être manifestes. La tendresse et la sympathie ne doivent pas être absents. Des dons d'administration seront nécessaires, comme les dons d'instruction et d'enseignement aussi. Je trouvais très intéressant ce qu'il dit. Des fois, dans certains milieux, on se dit « Ah, si tu connais la Bible, ça suffit. » Lui dit « Non, ça suffit pas. » C'est très bien, il faut connaître la Bible, il faut savoir enseigner. Mais il faut aussi savoir être berger. Il faut aussi avoir un don d'administration, parce que ça s'administre, une église. Et il faut aussi des compétences sociales. Très intéressant. Alors, question, où est-ce qu'on apprend toutes ces choses? Où est-ce qu'on apprend toutes ces choses? Très simple. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église, on apprend à enseigner. Dans l'église, on apprend à aider les gens. Dans l'église, on apprend à administrer quelque chose, organiser quelque chose. Et dans l'église, on apprend le social, à parler avec les gens, être sympa, être gentil, encourager. Et c'est intéressant, ça mène à la question de la réputation. C'est quoi une réputation? Ma réputation? La réputation, c'est ce que les gens disent de vous, et surtout quand vous n'êtes pas là. D'accord? Qu'est-ce que les gens disent de nous quand on n'est pas là? Donc ça, c'est la réputation. Notre caractère, c'est ce que Dieu dit de nous. D'accord? Alors, ce point, c'est un petit peu comme, je peux vous dire, voilà, moi je me sens vraiment appelé à être chirurgien. Voilà, je veux vraiment être chirurgien. Je suis convaincu que Dieu veut que je sois un chirurgien et un chirurgien du cerveau. Vraiment, je suis convaincu, le seul problème que j'ai, c'est que je tremble, j'arrive pas à arrêter de trembler, mais je veux vraiment être chirurgien. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'être chirurgien, d'accord ? C'est tout simple. Avez-vous les compétences pour faire le travail auquel vous êtes appelé ? Et dans le ministère, c'est très important. Et combien de gens ont été placés dans le ministère sans avoir les compétences pour le faire ? Et ça, c'est catastrophique pour tout le monde. Donc, il faut que les compétences suivent. Cinq. As-tu la confirmation ? Voilà, tu dis « Ah, j'ai vraiment le désir d'y aller. » Les premiers quatre points sont plus ou moins alignés dans ma vie. Maintenant, que pensent les autres de ce désir ? Par exemple, votre église. Avez-vous la confirmation de votre église ? Voilà, tu veux partir en tant que missionnaire quelque part. Eh bien, comme pour Timothée dans Actes 16, ben, l'église, qu'est-ce qu'elle en pense ? Donc c'est une bonne idée d'aller peut-être voir les anciens, premièrement, d'accord, et voir un petit peu ce qu'ils disent. Je sais que pour les diacres dans Actes 16, 6, lorsqu'ils ont été choisis, les sept proto-diacres, eh bien, ils ont été choisis, l'Église a donné son mot, l'Église a aidé dans le choix de ces gens. Ouais, c'est leur réputation d'homme de Dieu qui a beaucoup aidé dans ce choix, d'accord. Spurgeon, de nouveau, a dit ceci, « La volonté du Seigneur concernant les pasteurs se reconnaît par le discernement et la prière de l'Église. Il est nécessaire, comme preuve de votre vocation, que votre prédication doit être acceptable au peuple de Dieu. » Et ensuite, il dit ceci, j'ai souligné. « Je préfère accepter l'opinion du peuple de Dieu que la mienne sur un sujet si personnel que mes propres dons et mon appel. » Il dit, « Je ne peux pas avoir confiance en moi. Moi, je suis faussé dans ma perspective. » Alors, Église, aidez-moi à discerner si oui ou non mon appel vraiment vient de Dieu. Ça, c'est beau et ça, c'est humble. Ça, c'est vraiment humble. Que vous aimez le verdict de l'Église ou pas, une chose est certaine. Aucun de vous ne peut être pasteur sans le consentement d'amour du troupeau. Et donc, ce sera pour vous un indicateur pratique de votre appel ou non. Très, très intéressant. Donc, l'Église. Deuxièmement, il faut... la confirmation de vos amis. De vos amis. Par exemple, dans Proverbe 27, 9, juste quelques très simples. Les conseils affectueux d'un ami sont doux. Alors, il y a ami et il y a ami. Il y a certains amis qui disent oui à tout. Ça, c'est pas un vrai ami. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui dit oui quand il pense vraiment que c'est oui. Mais quand il te dit, quand tu viens lui dire, ouais, écoute, je me sens appelé à partir, je sais pas, n'importe où, dans l'Amazonie pour être missionnaire, ils vont te dire, mais t'es complètement cinglé, quoi. C'est pas du tout toi. Alors, peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il a raison, on n'en sait rien. Mais un ami, c'est quelqu'un qui va vraiment te répondre de manière honnête et franche. D'accord ? Troisième sous-point, de votre famille, vos parents et vos beaux-parents. Vous vous rappelez Moïse a consulté son beau-père Jéthro par rapport à son problème et il a beaucoup aidé. Et nous devons honorer nos parents selon Exode 20, n'est-ce pas ? Moi je me rappelle que quand je sentais l'appel de Dieu dans ma vie, je me disais j'aimerais bien voir l'approbation de mes parents, j'aimerais voir ce qu'ils pensent eux. Alors mon père à l'époque avait quitté ma mère et mon père vivait dans une période très difficile de sa vie, il vivait, il est dans une période de grande débauche en fait, mon père a quitté ma mère pour ça, et il buvait beaucoup, c'était un alcoolique, je me suis dit, je vais quand même l'appeler, lui demander ce qu'il pense. J'ai appelé mon père, j'ai dit, papa écoute, j'ai besoin de ton opinion, j'ai besoin de ton avis. Il a dit, ah bon, sur quoi ? J'ai dit, bah, écoute, voilà, je me sens appelé à aller retourner en Europe, et j'espère un jour à Genève, pour être pasteur, et je voulais savoir ce que tu en penses. Alors, attendez voir, il n'est pas chrétien, dans la débauche, alcoolique. Vous savez ce qu'il me répond ? John, je trouve cette idée sensationnelle. Je suis convaincu que tu devrais y aller. Alors, je ne sais pas, imaginez mon cœur, là. Dans mon père qui me dit oui. C'est inimaginable. Alors, est-ce que ça va être dans ce cas ? Mon père était dans un mode de vie que son conseil... je ne savais pas trop, je ne vais pas le prendre en compte. S'il me disait non, j'aurais attendu un non de sa part. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, à cause de son mode de vie. Mais d'avoir eu un oui, là, ça m'a vraiment époustouflé. Alors n'ayons pas peur, quelque part, de consulter même notre famille. Et votre conjoint, c'est toujours une bonne idée de ne pas oublier de demander l'avis de votre femme ou votre mari. D'accord ? Ça, c'est très, très important. Très, très important. Et 1 Pierre 3 nous en parle. 1 Pierre 3 et le verset 7, là je parle au mari. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la !» Il faut l'honorer. Donc demande-lui quand même ton opinion avant d'avoir des idées farfelues par rapport à un appel éventuel, d'accord ? Alors, c'est vrai que pour moi, alors je vous donne encore beaucoup d'exemples, moi, parce que je les ai vécus, mais Meg et moi, on était à New York et on commençait à tomber amoureux l'un de l'autre. D'accord ? On s'aimait beaucoup. Et on se demandait, tiens, comment on fait, comment on gère le truc, et moi je venais d'être licencié, et je venais de quitter la NBC, je me disais, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc Meg et moi, comme je dis, on tombait amoureux, on se demandait est-ce que peut-être un jour éventuellement, ouais, peut-être le mariage, on savait pas trop, on n'en parlait pas trop, alors je lui ai pris, on était à un restaurant à New York, restaurant suisse, et on a mangé une fondue, d'accord? Parce que je voulais manger une fondue avec elle. Et je lui ai dit, écoute, mec, j'ai un problème. Mon problème, c'est que je t'aime beaucoup, mais je sens que je vais probablement devenir missionnaire et probablement rester à Genève, peut-être pour le reste de ma vie. Et alors, j'aimerais quand même te donner l'opportunité de te rétracter, parce que c'est possiblement ce qui va se passer. Alors, si t'es pas à l'aise avec ça, on devrait arrêter notre relation maintenant, parce que si on se marie, c'est pour très longtemps le mariage, d'accord ? C'est jusqu'à la mort. Et donc, moi, j'étais vraiment honnête avec elle, et par la grâce de Dieu, elle avait ce désir de venir ici et de m'accompagner. Et donc, ça fait 31 ans qu'on est ensemble, et dans la joie, par la grâce de Dieu. Mais voilà, donc n'oublions pas de consulter notre conjoint. D'accord ? Donc ça, c'est le cinquième point. Ça va très vite maintenant, vous verrez. Six. As-tu le concours de Dieu ? As-tu le concours de Dieu ? Y a-t-il un accord circonstanciel de la part de Dieu ? Je m'explique. Là, on touche au domaine de la providence de Dieu. Nun a dit ceci. La providence est une ouverture qui correspond à la volonté de Dieu par un train progressif de circonstances, soulignant le moyen, le temps, le lieu pour l'entrée dans ce travail. C'est simplement, voilà. Je sens que Dieu me guide sur un chemin dans la vie. Est-ce qu'il ouvre ou est-ce qu'il ferme les portes? C'est ça la providence de Dieu. Par exemple, dans 1 Corinthiens 16, 8, il dit « Je resterai néanmoins à Éphèse, Paul parle, jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. » Et donc, il dit simplement, ben là, Dieu a ouvert la porte. Mais dans Actes 16, eh bien, c'est le contraire. Paul, vous rappelez, veut partir en Asie. Et il dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus m'a interdit d'y aller. Donc, il veut partir en Bithynie. Et là, de nouveau, il dit que Dieu ne lui a pas permis d'y aller. Donc, il a la vision et il part en Macédoine. Donc, Dieu ouvre et Dieu ferme les portes. Moi, je me rappelle, quand je suis parti en faculté de théologie, j'avais assez d'économies, c'est très cher l'école là-bas, j'avais assez d'économies pour un semestre, une demi-année. J'ai dit, j'y vais par la foi. Je me sentais appelé, ces points s'alignaient, j'y vais. Meg m'a aussi dit, vas-y, tu dois y aller, ça vient de Dieu, alors j'étais tout content. Alors j'y vais, je prends toutes mes économies, je les mets, et j'arrive à la fin du premier semestre, je suis complètement fauché, plus un rond. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis dit, je crois que c'est fini. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. J'avais un ami qui s'appelait Stuart. Je lui ai dit, Stuart, écoute, je crois que je vais devoir arrêter, j'ai plus d'argent. Il a dit, mais non, John. Je lui ai dit, écoute, j'ai plus d'argent. Il a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Toi, tu n'as pas la foi, mais moi, j'ai la foi pour toi. Je vais prier pour toi et Dieu va pourvoir. Je me suis dit, d'accord. Ô homme de grande foi. D'accord, on verra. Alors, 3 ou 4 jours plus tard, je reçois un appel de ma grand-mère. J'avais dit à personne ce problème. Ma grand-mère dans le Oklahoma m'appelle, m'a dit « John, salut, c'est Mamacita !» Puis elle me dit « Tu sais, ces derniers jours, j'ai une pensée. Ça fait des années que je soutiens un certain prédicateur à la télévision. Et là, je viens de réaliser que mon propre petit-fils veut aller à la faculté de théologie. John, j'ai décidé, j'aimerais te payer tous les collages complets, c'est décidé. Elle a envoyé un chèque. Tout a été payé pour les 3 ans suivants. Ça, mes amis, c'est de l'inimaginable, humainement parlant. Ça, c'est le concours de circonstances où Dieu ouvre et il ferme les portes. Et là, dans ce cas-là, il a ouvert la porte. Je connais aussi des amis missionnaires qui ont cherché les fonds. Pendant des années, ils n'ont jamais eu le fond et ils ont conclu que Dieu fermait la porte. Dieu ouvre et Dieu ferme les portes. 7. As-tu la combativité? La combativité. 1 Timothée 1,18 dit « Ce commandement, je te le confie, Timothée, mon enfant, confirmant mon prophétie, faite précédemment à ton sujet, que par celle-ci, écoutez bien, j'aime pas ce verset. Je vous le dis franchement, d'accord? Que tu combattes le bon combat. » Alors, humainement, je l'aime pas. Parce qu'on apprend que le ministère, c'est un combat. 1 Timothée 6,12. Combat, le bon combat de la foi. Mince. Mais ouais, c'est un combat. Donc, il y a forcément un combat. Alors, écoutez, 1 Corinthiens 16,9. Je vous ai lu que la moitié du verset tout à l'heure. Écoutez, j'aime pas trop ce verset non plus. Il dit, car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. Super. Mais juste après, et les adversaires sont nombreux. Ah mince, ça j'aime pas trop. Et oui, il y a le ministère, mais il y a les adversaires aussi. Il y aura forcément des problèmes. Point à la ligne. Ça fait partie du ministère, c'est normal. On est porte-parole de Dieu dans le monde de Satan. Ben, il faut s'attendre qu'il y aura quand même des problèmes. Bien sûr qu'il y aura des problèmes. Et moi, ça fait 29 ans que je suis pasteur missionnaire, et comme la plupart, j'ai aussi connu des combats. Une fois, il y a des années en arrière, je me rappelle bien, j'étais une fois hospitalisé pour stress avec douleur aiguë. J'avais hyper mal au ventre. Donc, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont mis des tuyaux, des tubes et tout ça. Et je me rappelle, vers les 2h du matin, je suis allé aux toilettes avec tous mes tubes. J'étais agenouillé devant les toilettes. Je vomissais sans arrêt avec la douleur partout. Et je me rappelle, m'être dit, tiens, c'est pas comme ça que je m'imaginais le ministère pastoral. Ben oui, le ministère est un combat. 8, mais regardez, 8. As-tu la continuité? Très beau ce verset, 2 Timothée 4,7, Paul y dit, j'ai combattu le bon combat. Ouais, super, j'ai combattu. Ça veut dire qu'il a combattu, passé. Qui veut dire qu'il était là dans une période de paix. Super. Et il dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors il a dit, sachant que quelques temps plus tard, il serait martyrisé pour sa foi. Eh oui, c'est un combat, mes amis, c'est un combat, mais il a combattu, il a été jusqu'à la fin. Vous savez, j'ai fait pas mal de travail sur Calvin, et j'ai une photo que j'aime beaucoup de Calvin, c'est, il est en train d'aller de chez lui à la cathédrale. C'est pas une photo, c'est un dessin, merci. Voilà. Oui, parce qu'une photo, ça implique une photo. Mais c'est un dessin, et ce dessin, il est en train d'aller de chez lui à la cathédrale, mais il est porté dans une chaise. C'est son dernier message avant qu'il meure. Et j'ai souvent, en regardant ce dessin, je me suis dit, j'espère que ça va être comme ça pour moi. Moi, j'aimerais aller jusqu'à la fin et bien terminer, jusqu'au bout. Et s'il faut me porter dans une chaise, j'espère que vous me porterez dans une chaise. D'accord? Vraiment. Mais ça, c'est vraiment, vraiment encourageant. Et combien de gens dans la Bible ont galéré, mais ont été jusqu'à la fin, ils ont tenu bon. Et donc, il faut cette combativité, mais aussi cette continuité. 9. Et oui, avez-vous ou as-tu une croix? Une croix. Ça, c'est le côté difficile du ministère, qu'on n'aime pas trop, on n'aime pas l'évoquer. Moi, le premier, mais il faut l'évoquer parce qu'il est biblique. Dans Luc 14, 25, vous rappelez ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Des grandes foules faisaient route avec lui, Et ils se retournent et leur disent, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il y a forcément un sacrifice à faire. Forcément un sacrifice à faire. Et je dirais que nous en Europe, le sacrifice paraît être moindre. Mais dans bien des endroits du monde, être dans un ministère plein temps te coûte encore ta vie aujourd'hui. Donc, c'est vrai, nous, dans cette période de paix, dans ce pays de paix, on doit toujours se poser la question, est-ce que je suis prêt à mourir s'il fallait pour ma foi? Alors je réponds oui, mais honnêtement, sans la grâce de Dieu, je ne sais pas comment je vais faire. Donc on doit forcément se dire, je prends ma croix et je suis prêt, s'il le faut, à donner ma vie. J'espère pas, vraiment j'espère pas. Et je termine avec point 10. As-tu le contentement? As-tu le contentement? Ah, comme j'aime ce petit verset. Constamment, je me le répète. Constamment, parce que je pense que c'est un verset qui ne s'applique pas qu'au pasteur et missionnaire, mais à tout le monde, hein, parce que la Bible est pour tout le monde. Écoutez, premièrement, le verset 16. Trois mots. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Je répète. Soyez toujours joyeux. Un chrétien, Christ vit en lui, il est pardonné de son péché, il a reçu la vie éternelle. Juste ça ne devrait nous donner une joie débordante. Une joie débordante. Et il dit au verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Est-ce que tu seras contenté quand il y aura le combat? Est-ce que tu peux être dans la joie en Christ même si les circonstances sont difficiles? Même si tu es en train de porter ta croix, ben, ça devrait être le cas. Ça devrait être le cas. Nous devrions être les gens les plus joyeux, les plus reconnaissants du monde entier. Sachant ce que nous avons reçu gratuitement de la part de Dieu. Waouh ! Mon salut ! Nous devrions être contentés. Mes amis, voilà les 10 principes. Les 10 principes sur l'appel de Dieu. As-tu la conviction, le caractère, la connaissance, la capacité, la confirmation, le concours de Dieu, la combativité, la continuité, la croix et le contentement? Vous dites, John, écoute, je ne sais pas si je me sens appelé au ministère. Je vous raconte une histoire. Je suis marié avec Meg. Meg a une maman qui s'appelle... Madame Maurice, quoi, c'est sa maman. Maman, on l'appelle. Et depuis 3 ou 4 ans, elle est dans une maison de retraite, vers Seattle. Elle était dans cette maison de retraite, elle s'est dit, mais il n'y a pas d'études bibliques ici, il n'y a rien qui se passe, parce qu'elle est chrétienne, elle aime le Seigneur. Elle s'est dit, mais il faudrait qu'il y ait un pasteur des cultes dans cette maison de retraite. Donc elle est allée rencontrer le directeur de la maison de retraite. Elle a pris un rendez-vous, elle a dit, écoutez, monsieur le directeur, je pense qu'il est très important dans cette maison de retraite qu'il y ait un culte régulier. J'aimerais vous demander d'engager un pasteur évangélique né de nouveau, que vous l'engagez, qu'il vienne tous les dimanches donner un culte, et que vous le payiez. Et le gars, il a répondu, d'accord. Incroyable. Donc ils ont contacté un pasteur, il est venu, et là, il donne les cultes. Et donc maintenant, il y a 15 à 18 personnes qui viennent toutes en chaise roulante. C'est vraiment des gens dans la nonantaine, quoi, hein, maison de retraite, des gens assez âgés. Mais ils viennent, ils chantent, faux, d'accord, mais ils chantent de tout cœur. Et Meg et moi, on y était, et j'étais là, et je regardais, et je dis, mais c'est génial. À 90 ans, ma belle-mère a démarré une église. Mais ouais, mes amis, on n'est jamais trop vieux pour œuvrer pour le Seigneur. Alors moi, je te demande, est-ce que tu es appelé à un ministère plein temps ou pas? Peut-être pas. Mais la question c'est, est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à le servir à fond avec les capacités que Dieu t'a données? Ben avec septembre qui arrive, on va redémarrer les activités de l'Église. C'est le moment de vraiment demander au Seigneur quelles seront tes implications pour cet automne. Amen.